Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Louis-Philippe, la semaine dernière, tu étais en Arkansas pour conduire un véhicule qui s'est fait assez discret, qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre, je trouve. C'est la version électrifiée de la Genesis G80.
Oui, Genesis a décidé de faire une version électrique. On l'a appris, là, il y a quand même, je pense que c'était l'an dernier, là, que Genesis allait nous amener une version électrifiée de sa berline intermédiaire G80. En fait, électrifié, là, c'est un mot qui s'apprête un petit peu à toutes les sauces de ces temps-ci dans l'industrie automobile, mais selon Genesis, là, on parle d'une voiture 100% électrique. On a pris le châssis ou la plateforme de la G80 à moteur thermique, et puis on lui a greffé là, un moteur électrique à l'avant, à l'arrière et une batterie dans le plancher. Donc, ça donne une berline intermédiaire très luxueuse, qui paraît très bien, bon, de mon avis à moi, mais également qui offre une bonne autonomie. On parle de 454 km d'autonomie pour cette berline-là, qui pèse un petit peu plus de 5000 livres. Donc, un véhicule qui n'est pas nécessairement extrêmement pesant quand on parle de certains véhicules électriques sur le marché, mais c'est définitivement...
C'est pas un poids plume non plus.
C'est définitivement pas une des plus légères. On parle d'une puissance combinée de ces moteurs, de ces deux moteurs-là électriques, de 365 chevaux avec 516 livres-pieds de couple. Évidemment, les deux moteurs nous offrent la traction intégrale sur ce modèle-là de la G80. Un véhicule qui est somme toute très agréable à conduire. On parle de quand même là, une voiture, je ne veux pas dire que c'est pépère parce que c'est 516 livres-pieds qui sont livrés.
Mais ça demeure une grosse berline, un peu pataude. On n'a aucune prétention sportive avec cette voiture-là. Là.
Évidemment. On regarde qu'est-ce qui se passe un peu sur le marché actuel en ce moment. C'est difficile de classifier une berline comme ça électrique parce que si on regarde les autres véhicules qui ont quatre portes, qui sont électrifiés en ce moment sur le marché, bien, on parle Tesla Model S, Audi e-tron GT et puis la Porsche Taycan, donc c'est sûr.
Et la future Polestar 5 dont on parlait il y a quelques instants.
Ça m'a fait penser à ça. Et ce sont des véhicules qui sont de très haute performance, beaucoup plus de chevaux là, que la G80 électrifiée.
Et ce sont des véhicules aussi qui ont d'abord été conçus pour être des véhicules électriques, alors que dans le cas de la G80, ça me paraît être une adaptation à partir d'un véhicule qui était initialement prévu pour être à essence.
Évidemment, ben oui, puis on espère que cette décision-là, cette stratégie-là, va nous permettre d'avoir un prix qui est alléchant, puis que la G80 électrifiée va peut-être offrir une alternative un peu de remplir cet écart-là entre les véhicules électriques qui sont abordables et puis qui sont admissibles à certaines subventions. Et puis des véhicules...
Mais pour le moment, on ne connaît pas le prix.
Non, pour le moment, on ne connaît pas le prix. De ce qu'on nous a dit, c'est le prix devrait nous être annoncé plus près de la date de production, c'est-à-dire au début de l'automne. Mais tout pour dire que ce véhicule-là, la G80, après avoir conduit, là, par exemple, les autres voitures qu'on a mentionnées un peu plus tôt, c'est un véhicule qui est très confortable, qui offre beaucoup, beaucoup de couple dans ses accélérations à bas régime, mais également qui offre une conduite qui est très silencieuse. Il faut le souligner chez Genesis. Et la G80, on l'a applaudi maintes et maintes reprises au niveau de l'isolation. À l'intérieur du véhicule qui offre un environnement de conduite qui est pas qui est propice là, à la détente, on peut dire. Et puis, tous les matériaux et l'assemblage dans ce véhicule-là sont également dans la même ligne d'idée.
C'est aussi beau, c'est aussi bien fini. Les matériaux sont d'aussi grande qualité que la version essence qu'on connaît déjà.
Évidemment. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que quand on a regardé ce véhicule-là, c'est difficile de la distinguer de son homologue à moteur thermique parce que justement, de l'extérieur, tout ce qui est différent, c'est la grille de calandre à l'avant qui est
pleine finalement.
Qui est pleine, qui est fermée et puis qui contient le port de recharge là, assez bien dissimulé à l'avant. Et puis à l'arrière, ben on a on a l'absence des pots d'échappement qui normalement sont intégrés dans le pare-choc inférieur et ils ne le sont évidemment pas dans la version électrifiée. Donc on garde somme toute tout le look assez somptueux là, de la G80 de Genesis.
Tu me parlais d'un moteur à l'avant, d'un autre à l'arrière. Comment on a réussi à dissimuler le tout pour pas empiéter trop dans l'espace du coffre?
Bien, évidemment, à l'avant, si on ouvre le capot, on retrouve un peu le même look que ce qu'on a avec le moteur thermique, c'est-à-dire que le moteur est surélevé, et puis on dirait que si on ouvre les couvertures de plastique sont toutes là, puis on ne voit pas vraiment une différence à part le fait que c'est un moteur électrique. À l'arrière, par contre, on a dû quand même faire un petit peu d'adaptation, puis on a empiété sur le volume de chargement dans le coffre qui était auparavant, là, on chiffrait ça à peu près à 370 litres, si je me rappelle bien. Puis on a dû retrancher environ 65 litres de volume de chargement à l'arrière comparativement à son homologue là, à moteur à essence.
Excellent. De mon côté, Louis-Philippe, j'ai pu conduire le Volkswagen Atlas, véhicule que j'avais conduit à son arrivée sur le marché, mais je trouvais pertinent de le remettre à l'essai. Véhicule d'essai qui était doté du moteur V6 de 3,6 litres. Bon, c'est certain qu'avec le prix actuel du litre d'essence, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir un V6 atmosphérique, mais en même temps, quand on regarde la gamme de l'Atlas, le moteur d'entrée de gamme, ben, c'est un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres qui, à mon avis, n'a pas sa place dans un véhicule comme l'Atlas. Alors, on est en quelque sorte condamné à opter pour le V6, c'est-à-dire, toujours pour rester dans les sujets d'actualité, le prix de l'essence, oui, mais la pénurie de véhicules neufs. On a reçu, il y a quelques semaines, un représentant de chez Volkswagen qui nous disait qu'effectivement, l'engouement pour le Volkswagen Atlas était quelque peu estompé. Donc, ça fait partie des autres avantages de ce véhicule-là. On peut l'obtenir assez rapidement. De mon côté, j'ai bien apprécié la position de conduite de ce véhicule-là. La garde au sol n'est pas très élevée, donc on monte à bord assez facilement. Et oui, à l'avant, c'est le grand confort. Cela dit, la qualité des matériaux de l'habitacle, ça laisse un peu à désirer. Et quand on monte la deuxième rangée, on a l'impression que ça empire encore. C'est beaucoup de plastique très rigide.
C'est pas qu'est-ce qu'on s'attend du constructeur Volkswagen. Je pense que dans les dernières décennies, on nous offrait un look qui était beaucoup plus premium, beaucoup plus singulier d'ailleurs qui était à Volkswagen. Puis maintenant, bien, dans ces gros utilitaires-là qui sont dans ce gros utilitaire-là qui a été fabriqué pour le marché nord-américain, on se détrompera pas. On a complètement laissé l'espèce de flair, un peu le look qu'on retrouve dans certains autres véhicules Volkswagen. Je trouve ça quand même bien dommage, même si c'est un véhicule familial.
Oui, on ne sent absolument pas l'aura Volkswagen ou le passé de la marque. On ne sent absolument rien à bord de ce véhicule-là. Bon, je disais que la qualité de l'aménagement n'était pas géniale, mais en même temps, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Quand on abaisse les bancs, par exemple, on obtient un beau plancher plat. Donc, c'était conçu pour la famille nord-américaine qui veut soit avoir plusieurs occupants ou encore transporter de gros objets. De ce côté-là, c'était bien pensé. Je précise que je conduisais la version régulière de l'Atlas et non pas sa version cross sport, qui est, à mon avis, encore plus inutile. C'est l'anti-VUS qui est pourtant un VUS. Donc, c'est simplement une version moins pratique de l'Atlas.
C'est un Atlas sans la troisième rangée.
Donc, pourquoi acheter ça? Excellente question et on n'a pas la réponse à cette question-là. Si vous voulez un VUS de ce format-là, ben, optez pour l'Atlas et au moins ben, laissez la troisième rangée baisser. Au moins, vous aurez un peu d'espace de chargement. À quoi bon se procurer un Atlas Crossport? Pour moi, ce véhicule-là n'a tout simplement pas de raison d'être.